Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie. Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri, comme tous les lundis à 17h.
Et toujours ravi de vous retrouver, chers auditeurs, bonjour à tous.
Nous allons parler, alors c'est le début du mois d'août, c'est les vacances, et nous allons vous parler de détente, de loisirs et de choses sympathiques, j'espère, pour vous.
Après vous avoir parlé de films et de livres,
oui,
lors de l'émission précédente, et là, on fait, vous savez, on fait souvent des numéros spéciaux, et comme dans vos magazines préférés du week-end, et on vous fait notre petite critique, tourisme, gastronomie.
Et, la prochaine émission, Pierre.
Ah, la prochaine,
c'est la prochaine où on va parler de cinéma.
Cinéma, et...
Mais avant, mais là, nous allons vous parler, plutôt, parce que c'est le début des vacances, nous allons vous parler, enfin pour certains, hein, parce qu'il y en a d'autres qui sont partis plus tôt, et malheureusement, il y en a d'autres qui ne partent pas du tout. Mais, en tout cas, même si vous ne partez pas, on peut vous conseiller, si vous restez à Paris par exemple, ou dans votre ville, quelle qu'elle soit, des endroits sympas où vous pouvez aller, des livres peut-être à lire. Voilà. Et donc, oui, nous allons parler un peu de gastronomie, un peu de bar à cocktail.
Un peu de voyage à l'étranger aussi.
Un peu de voyage
aussi.
À l'étranger pour, ceux qui, peuvent, pour ceux qui peuvent, l'Italie. Et donc, et puis quelques conseils. Alors Pierre-Henri, commençons peut-être par l'Italie.
Alors on va commencer par
plus loin.
Ouais, on va commencer par Naples parce qu'il se trouve que j'ai eu la chance d'aller à Naples, qui était une ville que je ne connaissais pas. Vous la connaissez, mais ça fait un peu plus longtemps, je crois.
Oui, oui, moi j'ai beaucoup été à Naples quand j'étais petit, moins petit, etc. Et puis après, j'ai été, oui, la dernière fois que j'ai été, ça doit remonter à une dizaine d'années. Maintenant, le temps passe vite, c'est effrayant. Mais,
alors, Naples,
mais je connais très bien, j'ai déjà été plusieurs fois.
C'est une ville sur laquelle il y a énormément de clichés. Alors, il y a beaucoup de clichés sur l'Italie, mais beaucoup sur Naples, et certains sont quand même assez mérités. Alors, capitale en effet du sud de l'Italie, donc de l'Italie plus pauvre, et puis ceux qui ont un petit peu de culture.
Mais riche en patrimoine.
Alors, vous avez à Naples, un des intérêts de Naples, c'est pas la seule ville en Italie, mais vous avez une église tous les 100 mètres. Et quand vous n'avez pas d'église,
vous avez des palais
incroyables.
En ruine, mais bon.
Vous avez des musées qui sont incroyables, bien évidemment, à deux pas en dehors de la ville, vous avez Pompéi et Herculanum. Donc là, en termes de patrimoine, c'est absolument fabuleux. C'est pas tout à fait Rome, c'est différent quand même, vous avez énormément de choses à visiter. Et puis, quand vous êtes... Alors, il se trouve que moi, j'y suis allé le jour de la visite officielle du pape, Léon XIV, que j'ai eu la chance de voir sur son parcours. Il a fait une visite un peu express à Naples. Et c'est une ville avec une piété très très manifeste. Oui. C'est-à-dire que vous avez des oratoires et des ex-voto absolument partout. Bien évidemment, la grande figure, l'une des grandes figures locales, c'est Padre Pio. Vous avez des portraits, des icônes de Padre Pio partout. Après, c'est Maradona aussi, mais là, on n'est plus du tout dans le domaine religieux. Et c'est une ville qui a plein de charme, alors qui est très contrastée. Parce que vous passez en effet deux quartiers qui sont vraiment, pardon de l'expression, mais cradingues, comme ceux qui étaient décrits dans la peau de Malaparte, c'est-à-dire où les ruelles sont extrêmement étroites, tout est sale, les fils électriques pendouillent de partout, il n'y a aucune sécurité.
On peut dire que Naples et sa région... Il y a un contraste terrible, ça on le sait, avec le nord de l'Italie ou Rome, mais on peut dire, moi j'ai comparé ça avec d'autres pays d'Europe, je pense qu'ils ont la palme d'or de la région d'Europe la plus sous-développée tout de même. Hein, parce que vous savez, on pense que la Grèce qui était en faillite, etc., c'est un peu, ou le Portugal, ou enfin voilà, c'est ce genre de pays d'Europe, on pense a priori comme ça, avec un préjugé, qu'ils sont les moins développés, les moins propres, etc. Je peux vous assurer que Athènes ou d'autres villes de Grèce mais sont 10 fois plus développées et propres que Naples.
Ça, c'est plutôt récent pour Athènes, qui a eu une réputation pendant très longtemps de ville très sale.
Et c'était vrai, mais je peux vous assurer que par rapport à Naples, en tout cas, en dehors de la saleté, il n'y a pas que la saleté, il y a le maintien des bâtiments, etc., et puis il y a l'ordre, vous voyez. Je peux vous assurer qu'à Athènes, il y a plus d'ordre qu'à Naples.
Hein. Naples, c'est l'anarchie, surtout, alors quand vous êtes au volant d'une voiture, c'est même pas la peine d'y penser, d'un deux roues, c'est un risque pour votre vie en permanence.
Personne ne met de casque.
On fait n'importe quoi
à scooter. À Paris aussi maintenant.
La signalétique routière est à titre indicatif.
Alors attendez-vous, chers auditeurs aussi, si vous allez à Naples, à voir. Ne vous étonnez pas si vous voyez, c'est pas un usurpateur, c'est un vrai policier. Si vous le voyez au feu rouge en train de siffler des filles en mini-jupe et fumant une cigarette.
Non,
c'est bien un policier.
Mieux que ça, c'est-à-dire qu'ils sont à proximité des vendeurs à la sauvette, généralement des Sénégalais, qui vendent des contrefaçons. Ils les laissent faire, mais en revanche, si un touriste le malheur d'acheter une contrefaçon, il est verbalisé, ça coûte plusieurs centaines d'euros le PV, mais le vendeur à la sauvette, lui, continue largement son activité.
Malheureusement, dans une autre émission, Pierre-Henri, on a parlé de la tiers-mondisation de la France.
Oui,
là... non, pardon, on va en parler.
On va en parler,
parce que c'est des émissions enregistrées, alors on confond tout, tous les deux, là, on s'en mêle les pinceaux. Et donc, à la Tour Eiffel, vous savez, dans Paris, à côté, autour de la Tour Eiffel, les vendeurs à la sauvette, ils ne craignent plus rien.
Ils ne craignent plus rien.
Encore mieux quand la police essaie d'intervenir, pas pour les arrêter pour leur vente, mais essaie d'intervenir pour arrêter une bagarre entre eux. Ils sont caillassés et la police est caillassée et elle doit se retirer. Donc on n'en est pas très loin, on se tiers-mondise, vous voyez.
Alors, ce qui est sûr, c'est que Naples, gros patrimoine en effet architectural, religieux, civil aussi, on l'a dit, et puis Pompéi Herculanum à côté. C'est une ville qui est pas mal en pente. Hein. Vous passez votre temps à crapahuter, à monter, oui, à descendre. Vous avez des parcs qui sont absolument magnifiques, et puis bien évidemment, vous avez une vue sur la baie avec les îles qui sont à quelques poignées de kilomètres, oui, en face. Ischia,
donc Capri,
Ischia,
un peu plus loin.
et vous avez un panorama qui est absolument magnifique, d'une part. D'autre part, c'est une ville où on mange bien.
Ah.
Et globalement, pour moins cher qu'en France, on peut
largement
moins cher qu'en France, sauf poissons et crustacés. Et pourtant, oui, c'est aussi un port de pêche, en plus d'être l'un des principaux ports commerciaux du sud de l'Italie. Mais ils se font plaisir sur les marges, dès que vous voulez prendre quelques gamberini rossi, c'est-à-dire les grosses crevettes, ou du poisson frais, alors qui est excellent. Hein. Mais en revanche, c'est un petit peu plus cher. Alors le reste, vous pouvez faire un repas complet et ne pas terminer votre assiette pour 10-12 euros, boissons comprises.
Oui.
Donc on est... Et ce ne sont pas des pièges à touristes du tout. Hein. Ce sont des endroits où mangent, oui, les locaux. Oui. Ce qui est un gage de qualité la, oui, plupart du temps. On y mange très bien. Alors attention, ce n'est pas toujours subtil. La cuisine de rue napolitaine, il y a énormément de fritures. Donc c'est bon, mais c'est quand même gras. Les pâtisseries, la pâtisserie phare, c'est la sfogliatelle, qui est une espèce de pâte feuilletée qui est fourrée à la ricotta, donc c'est assez lourd,
oui,
mais c'est bon. Et puis vous avez un café qui est excellent, c'est une tradition aussi italienne, mais quand même napolitaine, des ristretto. Vous n'avez même pas besoin de demander les cafés serrés, un espresso chez eux, c'est une gorgée, et c'est un café dont la qualité se trouve rarement en France. Alors il y a vraiment un charme, il y a une douceur de vivre à l'italienne, enfin une douceur de vie, une qualité de vie à l'italienne, et beauté des lieux. Architecturalement, c'est très sympathique. On mange très bien. C'est doux, c'est agréable. Après, il y a quelques défauts quand même.
Sur l'architecture,
on a parlé de la saleté, mais
oui, mais il n'y a pas que ça. Ce que je voulais dire, en comparant avec le Portugal, la Grèce ou d'autres endroits, c'est que il y a une. Faut pas négliger le côté mafia de Naples. Je ne parle pas des pickpockets et des voleurs à la tire qui sont légions, mais d'une mafia invisible pour,
oui,
le touriste
qui la verra jamais, voilà.
Qui fait que tous ces monuments sont fabuleux, mais parfois on ne s'en rend même pas compte, il faut rentrer dedans pour s'en rendre compte, tombent en ruine souvent, oui, parce qu'ils ne sont pas entretenus correctement.
Ça a failli être le cas de Pompéi, dont beaucoup d'aides qui y étaient destinées ont été détournées par la Camorra.
C'est là où je voulais en venir.
Voilà.
C'est parce que tous ces... En fait, cette région, et particulièrement Naples, reçoivent des subventions européennes, à n'en plus finir, reçoivent de l'argent de l'État central italien, etc. Et tout cet argent est détourné. Et donc, au lieu de restaurer avec cet argent tous ces monuments magnifiques, tout cet argent est détourné par la mafia, etc.
C'est quand même toujours le cas. Alors, plus ou moins, il y a eu un pic dans les années 90 et 2000. Maintenant, on dit que comme en Sicile, la mafia a quand même été un peu mise à mal, un peu calmée, mais en fait, c'est qu'elle s'est surtout retirée dans des zones d'activité qui sont plus discrètes, qui sont moins ouvertes. Il y a sans doute, en effet, moins d'exécutions dans les banlieues de Naples. C'est quand même une agglomération qui fait 4,5 millions d'habitants.
Oui,
hein.
Mais c'est très corrompu. Il n'y a pas que la mafia. Genre, tout ça est...
Bah, de toute façon,
tout ça est mélangé entre la mafia, les hommes politiques, etc. Ce qui fait
évidemment
que les monuments qui devraient... Il y a de l'argent pour restaurer tous ces monuments historiques. Et l'argent n'est pas utilisé pour ça, on ne sait pas où il disparaît, ce qui fait que c'est dommage, parce que c'est, comme vous l'avez bien décrit, il y a des monuments superbes, et moi il m'est arrivé de rentrer parfois, vous voyez parfois des monuments et des bâtiments, vous avez l'impression que c'est un vieil immeuble pourri, et vous rentrez dedans, vous vous rendez compte que c'est un ancien palais, mais qui tombe en ruine en fait, et à l'intérieur on découvre des peintures, des escaliers en marbre, mais avec un côté architectural très, très particulier, des peintures sur des murs avec un plafond très haut. Enfin, c'est quelque chose de vraiment très beau. Et vous voyez, les fenêtres tombent un peu, sont délabrées.
Les murs sont lépreux, très sales. Mais ça, il n'y a pas qu'à Naples. Hein. C'est commun à une bonne partie de la façade méditerranéenne. Hein. On le voit même dans le sud de la France où il y a quand même une différence d'entretien des bâtiments.
Dans le sud de la France, quand vous avez des monuments historiques comme ça, je peux vous dire, sur la Côte d'Azur, ils sont superbes.
C'est plus surveillé, c'est vrai.
C'est plus surveillé. Ouais. Vous prenez même les hôtels de luxe à Naples, leur façade ne donne pas très envie, n'est pas en corrélation avec le prix. Hein. Quand vous voyez les façades de nos palaces sur la Côte d'Azur, je peux vous dire que vous gardez la bouche ouverte. Hein.
Alors justement, pour en terminer avec ça, il y a un petit quartier il y a Chiaia, qui est le quartier un petit peu chic, où vous avez encore quelques belles boutiques de vêtements, peu pour hommes, même si une bonne partie de la production de luxe sartorial se fait dans les banlieues de Naples, mais cette production n'est pas vendue à Naples, elle est vendue à Rome, elle est vendue à Milan, à Tokyo, à Singapour, où vous voulez,
beaucoup,
mais pas
aux
à Naples même,
beaucoup.
Énormément aux États-Unis.
La production de vêtements fait à la main à Naples, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans cette région de travailleurs manuels.
Oui.
Et qui se font encore du travail à l'ancienne, etc. Ils exportent énormément vers les États-Unis.
Oui, et là où, en tout cas, vous avez suffisamment de capital pour acheter, mais vous avez des boutiques, des grands noms napolitains comme Cesare Attolini, Isaia, etc. Vous en avez à Milan et à Rome, mais vous n'en avez plus à Naples.
Oui.
Ce qui montre bien quand même que dans le tissu napolitain d'origine, la classe riche est sans doute beaucoup plus étroite,
évidemment,
beaucoup moins nombreuse qu'à Milan et Carone.
Du luxe pour les autres, eux n'ont pas les moyens d'acheter.
Alors dans ce quartier de Chiaia, il y a quelques rues qui sont très sympathiques parce que c'est le quartier des bars à vin, ce que les Italiens appellent des enoteca, et ça, on n'a pas l'équivalent à Paris, et vraiment, le bar à vin, c'est un grand choix, et vous avez d'excellents vins là-bas, je pense en particulier à un vignoble qui s'appelle le Piedi Rosso. Ce sont des vins rouges qui sont cultivés en partie en pente sur le Vésuve, et qui sont des vins rouges, mais très léger, alors que le réchauffement climatique, l'Italie du Sud, tout ça, non.
C'est là, 11 degrés, il me semble.
C'est du 11, 11,5, comme beaucoup de Chianti qui sont faits ailleurs en Italie. Et ces enotecas-là, vous avez énormément de choix en vin, très accessible, ça démarre à 20 euros la bouteille, hein. Et puis vous avez plein d'antipastilles à la mode italienne, et ça c'est vraiment agréable, et vous n'en avez pas une, deux, trois, mais une bonne dizaine dans ce quartier très charmant, très sympathique. Donc ça, à recommander quand même.
Bon, alors Naples, alors on revient...
Revenons en France,
la gastronomie, vous aviez quelques remarques à faire.
Ouais, un coup de gueule.
Ah oui, voilà, un coup de gueule pour un restaurant.
Alors oui, contre un restaurant, et surtout vous savez qu'il y a des chefs. On va peut-être faire une pause pour le Bobino d'abord. Non, faisons une pause pour le Bobino, et puis on se retrouve pour parler de la gastronomie en France.
Vous êtes près de 2 millions à nous écouter, mais moins de 20 000 à donner. Pourtant la gauche veut nous bâillonner, la gauche veut nous tuer. Répondez avec 1 euro. 1 euro pour garantir vos idées. 1 euro contre la censure. 1 euro pour rester libre. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris. Par avance, merci.
Revenons donc à notre sujet.
À nos moutons,
à la gastronomie. Et vous aviez une critique à faire.
Ouais,
sur un
système, en fait, déjà, c'est qu'il faut se méfier parfois des noms qui sont mis en avant, en particulier quand ces noms sont ceux de grands chefs multi-étoilés et qui ont parfois un côté de businessman, hein, d'homme d'affaires qui les conduit à investir dans des restaurants de moyenne gamme, mais dans lesquels le rapport qualité-prix n'est pas à la hauteur du prestige de leur nom. Alors, il y a Alain Ducasse dans ces cas-là, mais là, je vais parler de Guy Savoy. Et pourtant, Guy Savoy, c'est quand même un immense nom de la cuisine française contemporaine. Son restaurant à l'Hôtel de la Monnaie a été élu 8 fois d'affilée meilleur restaurant du monde, même s'il a perdu une étoile Michelin, mais après Michelin, c'est un autre débat. Et il se trouve que Guy Savoy, parmi tous les restaurants dans lesquels il a investi, il y en a un qu'il détient, dont il est la façade duquel il affiche son nom, qui s'appelle l'atelier Maître Albert, qui est à une encablure de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et le concept, entre guillemets, c'est que c'est sur une base d'une maison du début du XVIIe siècle, je crois. Une belle maison dont il reste encore quelques exemplaires dans ce joli quartier le long des quais de Seine. Et c'est de faire une cuisine un petit peu traditionnelle, un petit peu bourgeoise, avec une cuisson au feu de cheminée, au feu de bois. Bon, très bien. Et en fait, pour vous faire un résumé rapide, le problème de ces concepts-là, j'en avais testé un autre d'ailleurs, qui s'appelle Joya et qui appartient à Hélène Darroze, elle est aussi chef multi-étoilé d'un restaurant de palace à Londres, etc., et bien connue à cause de l'émission Top Chef. Et le problème, c'est que vous faites payer au client une plus-value sur le nom du chef qui promeut cet endroit, au lieu de faire payer le client le travail sur les plats qui vous sont servis.
Et là, c'est là où le rapport qualité-prix n'est pas fabuleux.
Voilà, non. C'est-à-dire que vous payez votre entrée 20 euros et votre plat 40.
Ah oui, ce qui est déjà cher.
Ce qui est déjà beaucoup. Et en fait, on vous sert quelque chose qui est bon, c'est vrai, mais quand vous payez 40 euros un plat, alors vous attendez plus que du bon. Et surtout quand, il se trouve que c'est mon cas, quand vous avez l'habitude de bien manger à la maison et de bien cuisiner vous-même. Alors, je ne dis pas que je suis un chef étoilé, loin de là, mais quand je vais au restaurant et que je paye cher, j'ai envie d'avoir justement ce truc en plus que je ne vais pas avoir chez moi si je me donne la peine. Et là, pour avoir pris donc en fait des tranches de rôti de veau cuit à la flamme avec une poêlée de courgettes et un jus, bon c'est vrai, bah c'est tout en fait. Bon, vous le payez 40 euros, vous avez deux tranches qui sont bonnes. C'est un bon rôti de veau bien cuit avec un jus de veau qui est bon et une poêlée de courgettes qui est bonne. Et c'est tout. Mais vous le payez quand même 40 euros parce que, en fait, sur la devanture, sur la façade, il y a le nom de Guy Savoie. Alors vous êtes dans un cadre assez agréable, c'est vrai, mais qui n'est pas forcément le plus agréable du monde non plus. Et en fait, c'est très frustrant. Il n'y aurait pas ce prix ni le nom de Guy Savoie. Vous seriez content, mais vous seriez beaucoup plus content si vous l'aviez payé 25 euros.
Je peux relativiser un peu ce que vous dites ?
Relativiser.
Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que vous dites est vrai, et je suis d'accord que c'est cher, etc. Mais malheureusement, à Paris, vous allez dans n'importe quelle brasserie dite chic, entre guillemets, où il n'y a rien de particulier. Hein,
vous atteignez ces prix-là.
Mais largement. Mais vous savez, je peux vous citer 15 brasseries parisiennes qui sont sympathiques ou confortables, mais il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Vous payez le filet de bœuf 44 euros. Le filet au poivre à 44 euros. Et vous avez un petit morceau. Hein, c'est pas...
bah, de toute façon, en fait, le filet est devenu un morceau de bœuf strictement inabordable. Oui. Moi, dans ma boucherie, qui est en plus une boucherie de supermarché très bonne, avec un excellent approvisionnement, il est à 50 euros le kilo. Oui. Qui peut aujourd'hui se permettre, sauf une fois par an, d'inviter des gens et de leur faire un filet au poivre?
Oui. Donc, mais il n'y a pas que ça. Vous prenez une assiette du bar ou du...
Vous êtes à 30.
30. Non, 30, mais je vous assure, 35. Dans ce genre de brasserie, vous êtes entre 36 et 38.
Hein. Oui, et si vous prenez la seule meunière, vous êtes à 50.
Oui, 50, 55. Et je ne parle pas de certaines brasseries qui vous servent une viande argentine, je suis pas...
Oui, maturée.
Oui, 70 euros le plat. Hein.
Oui, voilà. Tout à fait.
Une côte de bœuf, c'est 150 euros pour deux.
Oui.
Dans une brasserie comme La Rotonde.
Oui.
La Rotonde du 16e arrondissement, mais celle de Montparnasse n'est pas mieux.
Oui.
C'est 150 euros pour deux.
La maison de l'Aubrac, rue Marbeuf, que vous connaissez sans doute. Alors là, en plus, vous avez tout le jeu de la maturation dans des frigos, dans des armoires réfrigérées, où on vous vend en effet une viande qui a rassi pendant 30, 40, 45 jours, beaucoup plus cher, parce que bien évidemment, le temps, c'est de l'argent, c'est comme pour le caviar, on en reparlera peut-être un jour. Mais c'est pareil, c'est 150 euros à peu près.
Donc,
la viande
maturée. C'est pour ça que je dis que le resto de Guy Savoie, bon, c'est vrai que c'est cher. Mais enfin, il est dans la moyenne, parce que les autres, ce qu'ils vous servent à 44 euros, voire 50, n'est pas meilleur que le plat que vous avez mangé à 40 euros.
Encore une fois, ce n'est pas mauvais du tout.
Oui.
C'est-à-dire que c'est bon, mais ça
mais
manque...
Mais il est cher comme tous les autres. Hein. Bon.
Mais en fait, c'est ça qui est sans doute très frustrant.
Vous savez pourquoi? En fait, on pourrait se dire, c'est des voleurs, etc. Non, ce n'est pas vrai.
Alors,
je vais vous dire pourquoi, parce que les prix, on est dans Paris.
Loyer plus le coût du travail.
Oui,
la taxation du travail.
La taxation du travail, vous prenez un employé à Paris pour servir, il vous coûte, lui le pauvre employé, il ne va pas toucher beaucoup par rapport à son travail qui est assez pénible, mais en fait il vous coûte énormément en charges sociales, et puis dans Paris l'immobilier, on en a parlé déjà, est devenu tellement cher que si vous voulez avoir un restaurant bien placé, avec une belle décoration, ça vous coûte une fortune. Et donc c'est là, ça se retrouve sur la note. Ça, vous savez.
Évidemment.
Voilà. Et là, on n'a pas parlé des restaurants dits entre guillemets branchés à la mode, où là, du coup, vous mangez mal.
Oui.
On vous sert des plats réchauffés au micro-ondes encore.
On vous les sert mal.
On vous les sert mal parce que les serveurs ne sont pas qualifiés.
Oui.
Parce que dans les brasseries que l'on a citées, au moins souvent, les serveurs sont bien quand même. Ils savent faire leur travail.
Oui.
Donc là, vous avez des restaurants entre guillemets dits branchés à la mode, où la moquette est très épaisse, les fauteuils sont très confortables, vous êtes servi par des beaux garçons et des jolies filles habillées comme dans un cabaret.
Oui, mais pas qualifiées.
Mais qui savent pas ouvrir une bouteille de vin, et on vous sert des plats immangeables à 55-70 euros.
Hein. Oui, mais voilà. Alors, on va faire quelques suggestions, mais là, positives.
Oui.
Et on va parler un petit peu de bars d'hôtel, et pardon pour l'anglicisme, de toit terrasse de rooftop.
Oui.
Parce que c'est la saison, alors pour à Paris, en Ile-de-France, mais aussi un peu en Côte d'Azur. Vous aviez déjà quelques recommandations, cher Richard, à faire.
Alors, à Paris, pour ceux qui sont restés à Paris, oui, alors, entre guillemets, alors, pardonnez-nous, à Radio Courtoisie, on parle anglais, là, maintenant, c'est dramatique. Le rooftop, les toits, les bars sur les toits.
Toit-terrasse.
Voilà, cantonné à Paris, voilà. L'été, d'abord, c'est sympa parce que c'est l'été, et puis, deuxièmement, on profite de la vue
à
Paris.
Voilà, sur les toits de Paris, et vous avez des vues exceptionnelles.
C'est pas toujours décapotable, hein,
il y en a qui sont en intérieur.
Alors, je vais commencer par celui qui est à l'intérieur, mais qui a une très belle vue, c'est celui de l'hôtel Hyatt Vendôme.
Porte-Maillot.
Porte-Maillot, parce qu'il y a deux Hyatt à Paris. Le Hyatt Porte-Maillot qui est au Palais des Congrès de Porte-Maillot, qui est au dernier étage de la tour que vous voyez.
C'est un 15e, 20e étage, je crois.
Je ne sais plus, en tout cas, quand vous prenez l'ascenseur qui est extrêmement rapide, vous avez les oreilles bouchées comme dans un avion qui atterrit, ou qui décolle.
C'est impressionnant.
Oui, c'est impressionnant. Vous arrivez très vite. Et là, vous avez une baie vitrée. Vous êtes assis toutes les. Vous avez des tables rondes avec des tabourets.
Mm-hmm.
Alors, ce n'est pas très confortable, avouez-le. Alors, si vous voulez du confort, vous vous asseyez à l'arrière, vous voyez la vue de loin, vous avez moins de vue. Mais si vous voulez vraiment profiter de la vue, vous pouvez vous asseoir juste devant la baie vitrée, sur des petits tabourets avec une petite table ronde, et tout le monde est en face des vitres. Et la vitre commence depuis le sol.
Hein. Oui.
Donc vous avez une vue panoramique qui va des Hauts-de-Seine, c'est-à-dire du Mont-Valérien, le bois de Boulogne, tout le 16e arrondissement, après vous avez la tour Eiffel, vous avez tout Paris en fait. Vous voyez
jusqu'à Montmartre, on voit Montmartre.
Pas tout à fait Montmartre.
C'est à l'extrême gauche.
Montmartre est plutôt derrière. Ouais. Oui. Non, vous voyez plutôt du centre jusqu'au
centre
sud.
Centre au sud, oui.
Oui, et puis ça va jusqu'au haut, vous voyez Saint-Cloud, le Mont-Valérien, etc.
Alors, est-ce que les cocktails sont bons?
Oui, les cocktails sont bons, c'est pas les meilleurs, parce qu'on peut pas tout avoir, vous voyez. Donc là, vous avez la vue, les cocktails sont corrects, sont bien, mais ce ne sont pas des cocktails exclusifs, vous n'avez rien, pas vraiment, parce qu'on va parler d'autres bars d'hôtels, Pierre-Henri, ou les barman, on va en parler, mais moi je suis tombé sur des barman qui sont compagnons du devoir, des artisans médaillés, meilleurs ouvriers de France, vous voyez. Et donc là, ils vous font des cocktails maison, c'est-à-dire leur invention à eux, qui sont extraordinaires.
Bon, on peut peut-être parler justement du deuxième Hyatt, celui de la Vendôme.
Oui, alors,
la place Vendôme.
Place Vendôme, c'est rue de la Paix, plus exactement.
Au-dessus, oui.
Et donc il y a le café Jeanne qui est un peu restaurant-bar de l'hôtel, qui est sous une verrière. Alors c'est un bâtiment ancien qui a été restauré, qui est devenu l'hôtel Hyatt Vendôme. Et donc au milieu de ce bâtiment, il y a une cour.
Oui, un joli patio rectangulaire.
Voilà. Alors il y en a deux. Une cour qui est restée découverte.
Découverte.
Qui l'été. Alors l'hiver, on construit un chalet en bois provisoire où l'on sert une raclette, etc.
Et l'été, c'est
un restaurant en plein air.
Un restaurant éphémère, généralement confié à différents chefs. Moi, j'avais testé il y a quelques années la version italienne où ils faisaient des pizzas à la truffe, absolument phénoménales.
Voilà. Et donc, et à l'intérieur, une autre cour qui est sous une verrière. C'est le café Jeanne, aussi, d'ailleurs. Et là, vous pouvez dîner. Alors, très franchement, pour dîner, je l'ai essayé. C'est un peu cher parce que c'est un palace, hein, le Hyatt Vendôme. Donc,
c'est
le prix des palaces, évidemment. C'est très bon, mais c'est un peu cher. Mais bon, c'est rien de spécial. En revanche, les cocktails sont très bons. Et puis, vous avez un bar avec des miroirs biseautés.
D'accord.
De partout, du plafond. Alors le bar, il est au fond de du café Jeanne, donc il dépasse la verrière. Il est couvert de miroirs partout et c'est un peu déconcertant. Vous savez, quand vous y êtes, vous savez plus si vous êtes, si en face de vous c'est une autre salle ou si c'est
Et là, qualité de cocktail.
Alors le barman est italien.
Ouais.
Et il crée ses propres cocktails. Ouais. D'abord, il est sympathique.
C'est un immense plaisir.
Vous vous asseyez au bar, vous pouvez lui dire que me conseillez-vous. Il vous demande quelles sont vos préférences en général.
Il vous crée quelque chose sur mesure. Ça, c'est un immense plaisir.
Et c'est un jeune Italien sympathique avec lequel il vient il se préoccupe de savoir si vous aimez ou pas, etc. Et puis il vous renseigne, il vous explique qu'est-ce qu'il fait. Bon, c'est sympathique, c'est bon. Les cocktails sont vraiment très bons. Et puis le service est excellent. Que ça soit pour dîner, déjeuner ou pour prendre un verre. Alors là, du coup, le personnel est formé. C'est vraiment, on est dans un palace, c'est-à-dire que vous voyez bien que
c'est
les jeunes filles... C'est au millimètre, les jeunes filles et les jeunes garçons sont bien habillés. Ils ont la bonne gestuelle.
Gentil, avec la bonne distance, la bonne proximité, la bonne distance.
Et ils ont la bonne gestuelle, ils savent servir, ils savent dès que votre verre... Alors, vous avez un verre d'eau, bien sûr, qui n'est pas facturé. Ils vous le resservent. Dès que votre verre est vide, ils vous resservent de l'eau. Bref, ils sont aux petits soins.
Soins, attention. J'aurais dit à peu près, il nous reste 10 secondes, j'aurais dit la même chose sur le Lutetia. On en reparlera peut-être dans une autre émission magazine avec toutes nos recommandations.
Beaucoup plus de bar.
On se retrouve dans une semaine pour un nouveau numéro de Culture et Politique au cœur de l'été. Merci, chers amis.
Merci, à bientôt.